Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume.
Bonjour à tous.
On a appris des trucs.
Et t'es un peu rouillé.
Et je suis complètement rouillé, je sais plus ce que je dis, alors qu'en plus.
Et on va vous les transmettre.
À notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
Ouais, trop, ça fait une overdose.
C'est ça. Voilà, on a fait une overdose, du coup maintenant ça va mieux, on est allé en rehab. Et on est sobre.
Et presque.
Oui,
donc. On est presque sobre de culture.
Alors, de culture jamais, on est sobre de sucre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume?
Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de sang, de sueur et de gloire.
Et de jupettes et de sandales?
De jupettes et de sandales. Et ensuite, on va parler. Alors, pas trop de jupettes, en fait. Hein.
Ah ouais, non. C'est peut-être un.
Et ensuite, on va parler de l'invincible armada de la Baltique.
C'est ça, on va parler bataille navale.
Ouais. Et du coup, c'est moi qui commence.
Tout à fait, avec donc pas de jupettes, mais du sable, du sang.
C'est ça. On va pas faire durer le suspense, ça sert à rien. Hein. Je vais parler aujourd'hui de la gladiature.
Voilà, de Russell Crowe donc.
Exact, de Russell Crowe, mais parce que effectivement, j'ai revu un film important, un grand classique qui est passé depuis plusieurs fois à la télé, donc j'ai pu le revoir récemment, juste avant d'écrire ce petit sujet. Hein, Astérix légionnaire, ça passe souvent. Ça passe souvent. Est-ce que je me suis dit, ça me donnera une bonne motivation pour mon summer body? Enfin, bon, ouais, bon, je n'ai pas écrit ce texte il y a 2 semaines. Mais bon, avec le réchauffement climatique, il faut prendre les choses en avance et puis il va y avoir les fêtes. Donc,
un bon summer body, ça se.
Ça commence en novembre.
Voilà, se prépare en avance.
Non, en fait, ce qui s'est passé de façon beaucoup plus prosaïque, c'est un peu de la sérendipité, c'est-à-dire que je suis passé devant une vitrine dans mon quartier, et une vitrine d'une librairie, et j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui s'appelait « L'histoire des gladiateurs » d'Anne Bernet. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans un autre podcast du label Podcut, avant de l'avoir lu. les habitués du label avaient été un peu spoilés. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas, j'y connais pas grand-chose.
Oui, en fait, on connaît tous que ce qu'il y a dans Astérix et dans Gladiator.
Ouais, c'est ça, mais on reparlera un peu de Gladiator.
Ok.
Donc, direction l'Empire romain.
Auquel on pense toutes les semaines, tous les jours.
Voilà. À quoi tu penses quand tu penses Empire romain? Moi, je pense Gladiateur. Donc, direction l'Empire romain, direction Rome, hein, en fait. On va pas se mentir. Le reste, c'est un peu des bouseux. c'est quand même là que ça se passe. Hein.
C'est la seconde division de la gladiature, on s'en fout.
Ouais. Et on va voir quand est-ce qu'on va s'arrêter dans cette histoire autour du 5e siècle. Mais on va commencer. On pourrait commencer en 264 avant JC. C'est un peu une date clé dans l'histoire des gladiateurs, c'est-à-dire que d'après un historien qui s'appelle Valère Maxime, ou Valerius Maximus, ou
donc un historien romain.
Un historien romain. Les premiers combats de gladiateurs furent donnés à Rome, au Forum Boarium, sous le consulat d'Appius Claudius et de Quintus Fabius. Decimus et Flavius, les frères de Brutus Pera, les organisèrent afin d'honorer la mémoire de leur père.
D'accord, pour honorer la mémoire de leur père, des mecs se tapent dessus.
Exactement, mais en fait c'est le premier truc et c'est un truc vraiment important. Pour moi c'est le truc marquant, en tout cas un des vraiment des trucs que j'ai appris, c'est que les combats de gladiateurs c'est hyper associé au rite funéraire.
Ah ouais?
Ouais, ça remonte à une croyance assez ancienne qui était répandue par exemple chez les Étrusques. Chez qui on trouve les premières traces de ces combats funéraires. Le sang des vivants permet de donner de la force à l'âme du défunt.
C'est un peu vampire et tout.
C'est un peu vampire, c'est un peu occulte, c'est un peu mystique. C'est ce qui va lui permettre d'affronter sa nouvelle. Ce qui est après.
Oui, toutes les épreuves.
Voilà, la réincarnation, le paradis, la roue du destin, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Mais en gros, il faut du sang pour être bien balèze et pour pouvoir affronter ça sans peur et avec toute la force qu'il faut.
Et donc du sang de mec qui se tape et pas de vierge?
Alors, pas du sang de vierge, mais ça dépend. On sait que, par exemple, avec la mort des grands généraux, on va, par exemple, sacrifier les vaincus. Tu vois, les Étrusques, à un moment, ils vont, comme ça, sacrifier 310 prisonniers romains pour la mort d'un de leurs généraux.
Pourquoi pas?
Mais aussi, à cette époque, on a des soldats qui viennent se suicider sur la tombe de leur général.
Ah, genre, ils sautent sur leur épée et tout?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Bon, en moins extrême, on a aussi, assez couramment, des gens qui se disent, pour honorer la mort d'un grand homme, d'un homme, hein. on rendra à César ce qui appartient à César, mais pour le moment, C'est un homme.
Ok.
Ses amis, ils vont se livrer à des joutes amicales pour honorer sa pensée. On va pas aller souvent jusqu'à se tuer, mais on veut faire couler le sang. Toujours dans cette symbolique de le sang des vivants pour l'âme des morts. Et puis, au fur et à mesure, on va se dire que aller se battre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour profiter du buffet. À l'enterrement, bon...
Oui, c'est dommage, quand t'as une épée plantée dans le ventre.
Ouais, c'est pas pareil. Et un peu de la même façon que parfois, on va employer des pleureuses professionnelles pour certains enterrements et pour assurer le spectacle, bah, on va se mettre à dire, bah, plutôt que se battre nous, on va louer des mecs qui vont se battre à notre place.
On va prendre des clodos.
Non, des combattants pour livrer des combats à notre place pour honorer la personne qui est morte. La pratique va devenir populaire, et plus elle va devenir populaire, plus on va s'éloigner du rite funéraire.
Plus, bon, le prétexte qu'il y a un mec qui est mort...
Ouais, et puis, bon, l'idée du premier sang, après, quand c'est plus vraiment le tien...
C'est moins grave.
C'est moins grave, donc on va commencer à se dire, hey, on pourrait reprendre ces combats à mort, c'est cool. Donc, c'est cette pratique-là, cette pratique d'associer des combattants qui viennent combattre en l'honneur d'un défunt qui va se répandre dans l'Italie pour arriver à Rome, donc, en -264. Et officiellement, en fait, ces combats, ils vont quasiment toujours rester associés au rite funéraire.
Ah ouais, même dans le Colisée et tout
Même dans le Colisée.
Ok.
Les joutes de gladiateurs sont connues sous le nom de Munus Gladiatorum. On va dire souvent Munus. C'est le combat de gladiateur. Munus, ça veut dire cadeau. C'est le cadeau, l'offrande aux morts. Donc tout ça, ça va rester. Et donc toujours associé au rite funéraire. Alors associé de loin, hein, parce que très vite, ça va devenir un grand spectacle populaire.
Oui, parce que c'est toujours marrant de voir des mecs se taper dessus, quoi.
Ben voilà. Et puis, on est dans un moment où on est dans une république.
Mm-hmm.
Où le peuple romain, principalement romain, hein, les provinces, bon, un peu moins.
Oui, mais c'est pas encore l'Empire.
Oui, c'est pas encore l'Empire et c'est pas encore aussi grand. Mais le peuple romain choisit vraiment ses leaders.
Mm.
Et donc, des trucs hyper populaires, bah, c'est toujours bien pour s'attirer les votes des gens.
C'est ça, les Jeux Olympiques.
Et exactement. Et donc, faire ces Jeux, ça va devenir un vrai enjeu électoral et un enjeu de pouvoir. Et les chiffres vont grimper. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur la première truc ? Je crois que c'était cinq paires de combattants. Et puis très vite, on va se retrouver un siècle plus tard, en -150 à peu près. Là, on fait 74 paires de combattants.
Donc 74 combats d'affilée, quoi.
Ou en parallèle, mais souvent d'affilée.
Ok, mais pas genre 74 contre 74.
Non. Non, ça, c'est d'autres jeux. Alors, parfois, on fait des trucs, on fait des reconstitutions de bataille avec des gladiateurs.
Puis parfois, on met une cage, des chaises et des cordes.
Ouais, alors, on fera quelques associations avec le catch à un moment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la République, ces combats de gladiateurs, c'est des belles opportunités pour gagner des voix dans les élections romaines. Mmh. Et ces opportunités sont déguisées sous cette aura de rite funéraire. Bah, le problème, c'est que bah, pour faire des rites funéraires...
Faut qu'il y ait des morts.
Faut qu'il y ait des morts et que ça tombe au bon moment, quoi.
Ouais. Après, c'est comme l'apéro, quoi. Il est toujours 17 heures quelque part.
Et donc, un responsable politique n'a pas toujours la chance d'avoir un parent proche qui décède pile-poil au moment d'aller aux urnes.
Mmh.
Bon, c'est pas si embêtant que ça. Hein. Parce qu'au final, il va arriver qu'on attende 5, 10, 20 ans avant de rendre hommage aux défunts.
Alors, vous vous souvenez de la tante Micheline, là?
Ouais.
Bon, elle est morte il y a 33 ans, mais...
Alors non, pas la tante Micheline, l'oncle peut-être.
Oui, ah oui, pardon.
Jusqu'à César. César, qui va être le premier, bah, il a plus d'hommes de sa famille qui sont morts. Donc, ça va être le premier à organiser un combat en l'honneur de sa fille.
Ok.
L'épouse de Pompée, qui est décédée en -54.
Ah ouais, du coup, en plus, c'est l'épouse de Pompée et tout.
Ouais, c'est ça.
Beaucoup politique.
Rendons à César ce qui est à César. C'est lui qui met les femmes à l'honneur. Alors, il y aura d'autres façons de mettre les femmes à l'honneur, on va voir.
Ouais.
Globalement, on parlera de Néron. Hein.
Ah, en même temps, est-ce que c'est vraiment les mettre à l'honneur que de forcer des mecs à s'entretuer?
Ben pour donner leur sang, pour la force de leur âme.
Oui, certes.
Alors, avec 10 ans de retard, bon... Ça, c'est un peu la mystique autour des combats de gladiateurs. Mais la question, c'est qui ces gladiateurs?
Alors, si j'en crois mes cours, c'est des esclaves.
Eh ben, pas que. Avant d'aller plus loin, on va préciser ici que on va se rester très spécifique sur la question du combat de gladiateurs. Parce que dans les jeux du cirque, il y a plein d'autres trucs. On avait parlé des courses de chars et des origes multimilliardaires. On va passer les équestres, les gladiateurs à cheval. On va pas parler des chasses non plus.
Des chasses ?
Oui, des chasses. On organise des chasses dans le Colisée, dans tout ça. On met des animaux et puis on s'amuse à les tuer, quoi. On a du mal à se rendre compte, en fait, de ce que c'est, mais l'inauguration du Colisée, on va estimer qu'on a sacrifié environ 9000 bêtes.
9000 bêtes ?
Oui.
En combien de temps ?
En quelques jours.
Oh la vache !
Avec des éléphants, avec des fauves. Enfin, si tu veux, c'est des spectacles qui sont tellement énormes et qui sont tellement répandus qu'on estime qu'ils ont participé à l'extinction de plusieurs espèces.
Bah, du lion en Europe, peut-être, par exemple ?
Non, le lion de l'Atlas, par exemple. Ou la panthère en Nubie. Alors, en vrai, à cette époque-là, on est plutôt contents.
Qu'il n'y ait plus de lion.
Qu'il n'y ait plus de lion ou qu'il n'y ait plus de panthère. On a une perception un petit peu différente d'aujourd'hui. Mais on va laisser ça de côté. On va laisser de côté un peu les trucs bizarres. Enfin, on reparlera des quelques trucs bizarres de Caligula, de Commode, de ces gens-là. On reviendra à ça après, mais on va se focaliser sur les gladiateurs. Ce qui est important de savoir, c'est que ces gladiateurs, ils sont pas là que pour voir du sang. Ils sont là pour voir un spectacle. Alors, on reparlera un peu de comment se déroule le spectacle, mais globalement, si tu t'amuses pas au combat de gladiateurs, ça fait un peu un bad buzz.
Ouais, c'est comme le combat de boxe qui est fini au 15 secondes, quoi.
Donc, pour l'organisateur, qui va pas récupérer les voix qu'il veut, et pour le mec, le producteur, enfin, on appelle ça le laniste.
Ah oui, j'ai vu Spartacus, la série.
Et c'est ça. Et donc, le laniste, il a besoin qu'on ait des beaux combats, et sinon, c'est la merde. La conséquence, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment forcer quelqu'un à devenir gladiateur.
Oui, il faut qu'il soit d'accord pour faire décorer, pour apprendre.
Il faut qu'il ait envie de se battre. Et qu'il ait envie de rentrer dans le jeu. Donc c'est pas n'importe qui va devenir un gladiateur parce que il faut être volontaire. Alors, on va être clair, ils sont volontaires, mais ils ont rarement rêvé de mourir dans l'arène. Hein. Donc c'est compliqué de faire des statistiques exactes sur le sujet parce qu'on a peu de sources. Ce que les historiens vont utiliser, c'est les tombes.
Ouais.
Et on regarde les tombes des gladiateurs, ça permet de faire une sorte de statistique. Ça vaut ce que ça vaut, mais en gros, ce qu'on sait à peu près, c'est que les gladiateurs, c'est un gros tiers d'hommes libres.
Ouais.
Et deux tiers d'esclaves et de condamnés.
De condamnés de droit commun, quoi.
Ouais. Enfin, Tu peux être condamné. Donc, c'est par eux qu'on a commencé, hein, au début, puisque en moins 264, les gens qu'on fait combattre, ce sont des condamnés. C'est des prisonniers carthaginois.
Et on leur promet la liberté après pour qu'ils acceptent de se battre ou...
Alors, certains oui, ça dépend, mais souvent oui. Mais on va expliquer comment ça se passe. En général, c'est au bout d'un certain nombre de combats.
Points.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, t'es vendu en quelque sorte par la justice à laniste. Donc, t'as un contrat avec le laniste qui dit t'es libre au bout de tant de combats. Ça, ça rappelle un peu les traditions funéraires. Hein. Au début, c'est les vaincus qu'on...
Ouais, qu'on bute.
Même côté romain, hein, on fait pas de double standard sur ce qu'on appelle la dignitas, donc le fait de se comporter vraiment comme un romain. Faut savoir qu'un soldat romain qui est fait prisonnier, il est déclaré hors la loi et déchu de ses droits civiques. Hein.
Attends, donc un soldat de l'armée romaine, s'il est fait prisonnier par une armée ennemie, je suppose, il perd sa citoyenneté, quoi.
Bah oui.
Ah, c'est un peu Donald Trump, les prisonniers de guerre, c'est des losers, quoi.
C'est ça. C'est t'as pas tout donné, quoi.
Soit
tu gagnes, soit tu meurs.
Certes.
Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et donc, quand tu te dis que t'as une société qui est comme ça, faut pas s'attendre à une société qui soit... Enfin, quand t'es comme ça pour tes propres citoyens et tes propres soldats...
Oui, les prisonniers de guerre des autres.
Faut pas s'attendre à beaucoup, beaucoup de pitié. Hein.
La Convention de Genève, c'est pas là, quoi.
Ouais, les prisonniers de guerre, en gros, le général, il fait ce qu'il veut avec. Hein. S'il veut les tuer, il les tue. S'il veut les réduire en esclavage. Tu vois, après Alésia, César, comme ça, il va vendre 53 000 Gaulois.
Je vous fais un paquet cadeau ou pas?
Ouais, et Titus, à la fin de la guerre de Judée, pour revenir aux événements actuels, il va vendre 97 000 femmes et enfants.
Ok.
Et envoyer aux bêtes, ou faire des parodies de combat, parce que avec les juifs, c'est compliqué d'organiser des combats de gladiateurs, tu ne tueras point, tout ça.
C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit, normalement.
Bah, il va envoyer aux bêtes environ 1 million de captifs.
Ouh la vache!
Oui.
Donc 1 million de morts. Parce que,
ouais,
oui,
c'est ça.
Ouais. Ouais, bien! Quand on disait que Tamerlan c'était un boucher parce qu'il butait 100 000 prisonniers, finalement ça va?
Ouais, non, ça va. Pas étonnant que certains, en fait, vu les trucs auxquels tu peux être condamné, genre les mines, par exemple, bah, au bout d'un moment, quand on te dit c'est la mine de sel ou la gladiature, quand t'es jeune, en bonne santé, que t'as un peu d'expérience du combat, tu te dis, ouais, finalement...
Sur un malentendu, je peux m'en sortir.
C'est ça, peut-être que je peux m'en sortir. Et souvent, en fait, c'est tout bénef, parce que quand c'est des prisonniers de guerre, c'est des gens qui sont déjà entraînés au maniement des armes, qui sont déjà physiquement affûtés et qui sont prêts à se battre, quoi.
Mm.
Bon, même si garder des ennemis armés, c'est parfois un peu dangereux. Hein. On a parlé de
Spartacus. Ouais, parce que c'est ça, il a commencé dans une mine de sel, ouais, aussi.
Les prisonniers de guerre, ça reste des gens, finalement, à qui on a donné un petit choix.
Ouais.
Et il y a aussi le cas des condamnés vraiment de droit civil. Ça, c'était les prisonniers de guerre. Il y a les condamnés de droit civil, donc qui sont touchés par la damnatio ad ludum, donc condamnés au jeu. Okay. En gros, ça, c'est... plutôt pour les assassinats, les incendies, les sacrilèges.
Ah oui, c'est pas genre le voleur de voiture, quoi.
Ouais. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, une alternative à la peine de mort.
Mais on leur laisse le choix, genre on leur dit, là, on te décapite ou alors tu vas au jeu ou...
Souvent, ils ont le choix. Bah, encore une fois, il faut que tu sois volontaire, en fait, pour aller au jeu.
Oui, oui.
Pour être gladiateur, enfin, que ça serve à quelque chose que tu sois gladiateur, il faut que tu sois volontaire. Donc, est-ce qu'on te condamne à mort avec tous les supplices et l'ingéniosité du peuple romain pour ça? Soit tu vas au jeu. Sinon, il y a les mines.
Oui, ouais, voilà.
Là encore.
Ce qui est plus ou moins une condamnation à mort, hein, parce qu'une mine de sel...
Ouais, et il peut être gracié à ce moment-là, au bout de 3 ans.
3 ans de combat, donc.
Oui. Et automatiquement, il est libéré au bout de 5 ans.
Ok. Et on a des chiffres sur combien on réussit à tenir 5 ans là-dedans?
J'ai pas les chiffres, mais on parlera un peu de qu'est-ce que c'est qu'une une carrière de gladiateur.
Mmh.
Ça dépend vraiment de à quel moment on parle.
Ah oui, parce que bah, selon les périodes, c'est plus ou moins violent.
C'est ça. Bah, c'est entre les débuts, la République et
Caligula.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ok.
Voilà, il y a des abus parfois. Ah, parce que parfois, on a intérêt, les lannistes disent ce serait bien d'avoir quelques hommes en plus, et donc on va avoir une justice un petit peu influencée. Et ça fera, il y aura quelques philosophes qui diront, en gros, on est en train, par exemple, de transformer des voleurs en assassins.
Ouais, j'avais lu un truc là-dessus sur la Chine où le vol, c'est condamné à mort. C'est peine de mort, et du coup, les voleurs, bah, si tu résistes, ils te tuent, puisque de toute façon...
Ouais, mais même là, le voleur... En fait, le voleur dont tu fais un gladiateur...
Ah oui, tu lui apprends à tuer, quoi.
tu lui apprends à tuer pour le punir de son vol.
Cool.
Voilà, c'est une façon. Donc, il y a les condamnés. De la même façon, un esclave, sous l'Empire, c'est un meuble. Hein. Non, mais je veux dire, en termes de loi et tout ça... Attention, hein, un meuble, c'est un objet, ça a de la valeur. T'as pas le droit de le voler.
Mm-hmm. Si quelqu'un te le bute, il faut qu'il te rembourse.
Ouais, mais c'est ça. Et c'est important pour un organisateur. Si tu casses, tu payes.
Si tu me casses mon gladiateur...
Bah oui, quand tu tues un gladiateur, tu dois payer au lanniste une compensation. Et en quelque sorte, c'est aussi un gage de la richesse de l'organisateur de condamner un perdant à mort.
Ah ouais, quand on voit le truc du pouce, là,
ouais.
Quand il baisse le pouce, il voit la facture, quoi.
Exactement. Et donc derrière ça, c'est aussi je montre que j'en ai rien à foutre, je peux payer.
Ouais.
C'est
très cynique, mais.
C'est très cynique, mais c'est quelque chose qui est important. Enfin voilà, il faut se rappeler que bah, derrière, le mec, il paye, quoi.
Mm.
Ce que ça veut dire, c'est que donc, ton esclave, c'est un meuble. Donc tu peux le vendre à peu près à n'importe qui sans lui demander son avis. La gladiature, finalement, ça apporte aussi des opportunités de richesse et d'être affranchi.
Pour l'esclave, tu veux dire ou pour...
Oui, pour l'esclave.
Mmh.
Et finalement, c'est Adrien qui va interdire les ventes d'esclaves en vue de la gladiature au début du deuxième siècle. Et Adrien, ce qu'il va dire, c'est vous avez le droit de vendre un esclave à un laniste que si c'est pour le punir parce qu'il s'est rebellé.
Oui, donc on revient sur la justice.
Sur la justice. Donc ça, c'est des esclaves, des condamnés, des gens qui ont perdu leur liberté. Mais il y a aussi des gens libres.
Oui, tu disais un tiers.
Un tiers. Et eux, bah, ils n'ont pas l'excuse de ne pas avoir un vrai choix.
Mm-hmm.
Eux, ils l'ont choisi relativement sciemment pour s'y engager. Bah alors, pourquoi?
Ouais, parce que j'allais dire relativement, ils l'ont choisi. Si c'est des pauvres, oui, c'est le seul moyen de gagner de l'argent parce que le système les opprime. Est-ce que c'est un vrai choix?
C'est une question qu'on peut se poser, mais il y a plein d'autres choses derrière. Les gladiateurs, ils peuvent atteindre une gloire assez importante.
Ouais, ouais.
Les femmes. On a quand même parlé de fils d'empereur qui ressemblait beaucoup aux gladiateurs à la mode du moment.
Ça, dans Gladiator, le film, il oui, y a un peu de ça.
Bah, y a des historiens qui le disent assez ouvertement. Souvent pour des empereurs qu'ils n'aiment pas trop.
Oui, bizarrement.
Mais surtout l'argent. T'as certains qui veulent beaucoup d'argent. Et d'autres qui disent, bah, en fait, c'est le seul moyen de gagner ma vie, comme tu disais. J'ai plus d'autre choix, je suis criblé de dettes, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Un débutant qui s'engage, il va toucher 2000 sesterces.
Mais donc, du coup, il rentre dans l'écurie d'un alaniste aussi.
Oui, c'est ça.
Sauf qu'il est libre de partir. Enfin, il y a un contrat, je suppose.
On va en parler de comment ça se passe. Juste la thune, un débutant qui s'engage, il gagne donc 2000 sesterces quand il s'engage. Et ça correspond plus ou moins à un an de service pour un légionnaire.
Ok, mais ça, c'est juste la prime quand il s'engage.
Ouais. Et certains peuvent être payés jusqu'à 10 000 sesterces par combat.
Ah, mais qui doivent gagner, du coup.
Ah non, ils sont payés pour le combat. Après, s'ils...
Ah oui, ouais, ouais, mais s'ils ne gagnent pas, ils meurent, quoi.
Souvent, enfin, ça dépend des époques, mais s'ils ne gagnent pas, ils meurent. Et donc, quand un homme libre s'engage, il va signer un contrat avec un laniste.
Mm-hmm.
Il va signer son contrat et... C'est un contrat qui est hyper important parce que en signant ce contrat, le nouveau gladiateur devient de fait l'esclave du laniste.
Ah ouais, c'est donc, un peu vénère comme contrat de travail.
Ouais, c'est ça. En fait, le laniste va disposer de sa vie pour un certain nombre d'années et de nombre de combats qui va être donné.
Mais du coup, il peut aussi lui dire bon bah maintenant tu me masses les pieds. Et
Alors oui, il a pas forcément intérêt parce qu'il paye cher pour ça.
Oui, c'est vrai qu'il paye 2016.
mais potentiellement, oui.
Mm.
Et ça, c'est vraiment un choix fondamental. Parce qu'une fois que tu es devenu un esclave, après, tu peux être affranchi, mais tu es marqué de ce qu'on appelle l'infamie.
Ouais.
Tu n'es plus un citoyen.
Mm.
Alors certes, tu pourras devenir hyper célèbre, hyper riche, avoir la gloire, être connu de tout le monde, mais tu te condamnes à vie à devenir un sous-citoyen.
Ah, parce que quand t'es affranchi, tu redeviens pas citoyen, ouais.
Ben non, t'as plus les mêmes droits, et là, t'es vraiment frappé de ce sceau, et c'est ça qui est un peu étrange, c'est cette dichotomie entre... Enfin, le combat en lui-même est un acte noble, mais les gens qui le font...
Ouais, sont
pas dignes d'être considérés comme des citoyens.
Voire perdre leur qualité de citoyen pour pouvoir aller se battre.
C'est ça. Et vraiment, le gladiateur, c'est un sous-homme. Mais si tu veux, un peu comme l'acteur pouvait l'être au Moyen-Âge.
Oui.
Où il avait pas le droit de dormir dans la ville.
Oui, qu'il pouvait pas se faire enterrer sur une terre chrétienne, etc. Et, oui, c'est ça.
Alors, il va y avoir quelques exceptions à cette règle. Notamment, à un moment, pour honorer César, on va avoir des aristocrates qui vont faire des combats montés.
L'un contre l'autre
L'un contre l'autre, et après des chasses.
Mm-hmm.
En fait, c'est des gens qui se disent « Eh, on va l'impressionner, on va venir participer à ces jeux. »
Mais du coup, ça fait un peu duel de chevaliers, enfin, tournoi de chevaliers.
Un petit peu. Alors, je suis pas sûr qu'ils soient l'un contre l'autre. Je pensais plus « Je vais participer à tes jeux, genre dans les chasses ou de se battre contre des... »
Ah ouais, on va se battre contre des...
contre des gueux. Et donc, dans ces cas-là, il y avait quelques exceptions.
Oui, parce que je suppose que le noble, il perd pas sa citoyenneté quand il va...
Bah, quand c'est dealé comme ça, non.
Ouais.
Et puis, il y aura Néron. Néron, l'empereur punk, qui va, à un moment, réquisitionner 400 sénateurs... 600 chevaliers, donc chevaliers, c'est juste en dessous de sénateurs, hein, dans l'ordre social romain, pour les faire combattre dans l'arène.
Mais donc, sans leur demander leur choix, quoi.
Voilà.
Oui.
Parce que ça l'amuse.
Bien.
Alors, pas forcément parce que c'est la muse, mais s'ils peuvent pas se battre, il va les utiliser comme garçon de piste, comme machiniste pour les jeux du cirque. Bon, les combats se feront avec des armes factices.
Ah ouais, c'est pas une façon de buter la moitié du Sénat, quand même.
Ouais, mais c'est un énorme power move de l'empereur qui dit globalement à ses sénateurs, vous êtes au même niveau que ses sous-citoyens.
Ouais, c'est un peu de danse pour moi, quoi.
Ouais, mais et pour moi et pour la foule.
Oui, en plus.
Néron, il va aussi encourager les patriciennes à s'adonner au jeu du cirque. Il va faire venir les femmes, à se mettre, il va les vraiment leur apprendre, enfin les encourager à se mettre à l'escrime, histoire de bien appuyer sur les questions de déshonneur.
ouais, tu peux buter pas une femme.
Il y aura quelques gladiatrices professionnelles. Souvent, peut-être qu'elle voit là une alternative à la prostitution. On n'a pas beaucoup de documentation hein, sur les gladiatrices. Alors,
Ou alors, c'est juste des combattantes exceptionnelles, quoi.
Oui.
Tu vois.
Alors, elles combattent seins nus.
Ok.
Voilà, c'est à peu près ce qu'on sait.
Parce que le bikini armure n'a pas encore été inventé.
Elles sont généralement pas destinées à mourir. Les femmes vaincues, on les sauve. Enfin, voilà, elles sont là pour se battre pour le plaisir du peuple plus que pour mourir.
Ok.
Bon, ça reste très marginal hein, comme pratique. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a une seule paire de gladiatrices comme ça qui est documentée et connue. Hein.
Mm-hmm.
Et ce sera interdit par Septime Sévère.
Interdit, genre les femmes ont plus le droit de se battre.
Une fois qu'on sait d'où vient le gladiateur, il reste déterminer sa classe de personnage.
Oui, parce qu'il y a en fonction de ce qu'ils ont un filet, un trident, une épée.
C'est ça. En fait, on a ritualisé des sortes de personnages types dans lesquels va se glisser le gladiateur avec différentes armes, différentes armures. En gros, depuis le début, depuis les combats des Étrusques et les premiers combats à Rome, on a une sorte de division claire entre le guerrier samnite. Donc les Samnites, c'est une peuplade du nord de l'Italie, il me semble, qui lui est généralement dans une énorme armure qu'il protège très bien, mais qui le rend très lent, face au guerrier gaulois, qui est plus fragile, mais plus rapide.
Ouais.
Et souvent, on va jouer sur l'opposition des styles, pour rendre le combat amusant.
Ouais, plus drôle.
Ces styles vont petit à petit tomber un petit peu en désuétude, hein, en partie à cause de la cancel culture. à un moment, les Gaulois vont être hyper intégrés dans l'Empire.
Ah bah oui, il y a même des empereurs qui sont gaulois en soi.
Et donc, le guerrier gaulois, au bout d'un moment...
oui, on pourra arrêter d'utiliser ce mot parce que c'est...
C'est ça. Donc on va arrêter de les stigmatiser, on va faire évoluer le style. C'est ce qu'on appelle l'armatura. Hein.
La classe de personnage.
Ouais, la classe de personnage. Et en fait, ça va dépendre de la situation du laniste déjà au départ. Dans quelle écurie je suis? Est-ce que je suis dans un petit truc de province où globalement, tu prends ce que t'as comme arme?
Ouais, l'armure complète, tu l'auras pas.
Ouais, c'est ça. Est-ce que il a l'équipement et les entraîneurs spécialistes pour lui apprendre à se battre et à maîtriser ses armes et ses armures? Bon, si on parle des gladiateurs impériaux, parce que les empereurs vont avoir des écuries à eux.
Logique. Jusque-là.
C'est ça.
Aujourd'hui, les milliardaires ont des clubs de foot.
Ça peut marcher. Mais donc, quand on est en province ou on est avec des lanistes itinérants, ça existe aussi. Là, ça va être bien moins évident. Le nouveau gladiateur, en général, il commence, ils ont autour de 16 ans. Hein.
C'est hyper jeune.
Ouais. Et donc, il va se choisir une spécialité en fonction de ce qu'il peut faire, mais aussi en fonction de son physique et de ses goûts. Et en fait, tu pourrais ne pas te spécialiser, mais en général, c'est vu comme un peu un truc de mauvais goût.
Ah ouais, ok.
Quand on arrive à l'apogée de la gladiature, on va pouvoir compter entre 15 et 20 armaturées différentes.
20 classes de perso, pas mal.
Ouais, avec en plus des variantes locales.
Mm-hmm.
Le samnite va devenir un oplomaque avec une lance et un petit bouclier, ou un sécutor avec un grand bouclier et un glaive. Le sécutor, on va généralement l'opposer au rétière. Le rétière qui est hyper mobile avec son filet et son trident.
Ouais.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, le sécutor, il a une forme de poisson sur son casque. Et le combat, c'est une sorte de jeu de pêche. On va retrouver le thrace aussi, le myrmillon.
Là, dans Astérix, il y a myrmillon.
Voilà. Ah non, c'est lui, c'est le myrmillon. Myrmillon, ça veut dire dorade. Et donc, naturellement, il va se battre contre le Rétière.
Oui, logique.
On va même faire évoluer le filet plombé du Rétière pour en faire une sorte de lasso façon cow-boy qui va donner le l'Aquarius. Parfois, on va lui enlever pour qu'il se batte avec deux poignards. On va même avoir des classes un peu blagues, comme l'Ant des Battes. C'est un Thrace, donc très protégé. Son casque est entièrement fermé.
Ah, genre, il voit pas?
Genre, il voit pas. Et il porte des clochettes. Alors, il me semble qu'il voit pas, mais en gros, le but, c'est de le faire tomber, quoi. Une fois qu'il est tombé, il est...
Oui, bah, c'est une tortue, quoi.
C'est ça. Non, c'est, ce qu'on fait tomber, c'est les crupellaires. C'est des crupellaires gaulois qui sont intégralement cuirassés.
Mm-hmm.
C'est genre, c'est Iron Man. Mais bon, une fois qu'il est tombé, voilà.
Oui, il peut pas se relever.
Le gladiateur a choisi de devenir gladiateur. Il a choisi ses armes. Il a choisi sa spécialité. Il va devoir se battre.
Il faut qu'il monte en niveau, maintenant.
Ouais, bah pour ça, il lui faut un adversaire.
Ouais.
Et là-dessus, bah il faut se rappeler que il s'agit davantage d'un divertissement que d'un sport.
Ouais.
Le but, c'est pas d'avoir des combats les plus équilibrés, le but, c'est d'avoir les combats les plus cools pour les spectateurs.
Ouais, comme le catch, quoi.
Comme le catch, exactement. Et donc, c'est pas qu'une question de niveau et de est-ce qu'on va mettre les plus forts les uns contre les autres ou pas, c'est vraiment une question de popularité et aussi de finances. Parce que les gladiateurs les plus chers valent beaucoup plus d'argent à embaucher et donc encore plus cher à tuer.
Oui, c'est ça. C'est que si ton champion, il meurt, ça coûte cher à l'organisateur.
Exactement. Donc, concevoir la carte des événements, c'est tout un art.
Et est-ce que c'est prévu qui est-ce qui va gagner?
Non.
Ah.
Non, c'est un vrai combat.
Ouais,
Volkiev. Enfin, il y a des règles non dites, mais c'est un vrai combat à la fin.
Mais donc, un Lannis qui met son champion sur le truc, il y a toujours le risque que le mec fasse un faux pas, meurt, et bah, ça nous coûte hyper cher et on a perdu le champion, quoi.
C'est ça. Bah, ça coûte pas cher au Lanniste.
Coûte cher à l'organisateur qui a pas forcément prévu le coup, quoi.
Exactement, mais l'organisateur, il doit quand même dire oui ou non, quoi. Parce que c'est hyper mal vu de tuer un gladiateur sans l'avis du public.
Ouais, non, à la fin, d'accord, mais les mecs, ils se battent avec des vraies épées, tu vois, oui. Donc à un moment donné, tu peux aussi mourir par accident, quoi.
Ouais, ou ne pas mourir, mais ne plus pouvoir combattre.
Oui, voilà, prends une flèche dans le genou, et puis voilà, c'est fini.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est quelque chose qu'on va prendre en compte, de toute façon, dans la façon dont quels combats vont avoir lieu. Avant le combat, on va avoir une grande parade dans les rues, pour que chacun puisse voir les gladiateurs de près. Parce que, bien sûr, il y a des paris et tout ça. Et donc, il faut pouvoir se faire une idée de où est-ce qu'ils ont l'air en forme. Les plus accros ou les plus chanceux vont avoir même accès aux entraînements.
Ou alors, il faut payer, quoi, pour avoir accès aux entraînements.
Comme
au foot, aujourd'hui.
Exactement. Donc, on fait la parade dans la rue une journée ou deux jours avant. Et finalement, arrive le moment fatidique. Ave César, moritori te salutant.
Mm-hmm.
Ceux qui vont mourir te saluent. C'est la phrase iconique des gladiateurs. On la retrouve dans Astérix et dans Gladiator.
Oui, c'est vrai.
Pour ne citer que nos sources les plus sérieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que documenté, on n'a retrouvé qu'un seul usage de cette phrase.
J'allais te le dire.
C'est arrivé une seule fois de façon documentée. Et en fait, c'est pas tout à fait dans le cadre d'un combat de gladiateurs, mais c'est dans le cadre d'un combat de condamnés à mort.
Ah, c'est genre les condamnés à mort qui font un peu les trolls
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est l'empereur Claude.
Mm-hmm.
C'est l'empereur Claude, on vient d'assécher le lac de Fulcino. Donc c'est hyper cool, on a asséché un lac autour de Rome. Et donc, on fait des jeux pour fêter ça. Et on va faire une nomachie. Donc une nomachie, c'est une sorte de bataille navale, de fake bataille navale. Et donc, on va mettre des condamnés à mort des deux côtés, et puis on leur dit allez entretuez-vous. Et donc c'est à ce moment-là, c'est dans cet événement que les condamnés avant lui disent ceux qui vont mourir te saluent, parce que pour le coup,
oui, ils sont sûrs de mourir.
Ils sont sûrs de mourir. Claude leur répond un truc du genre ou pas.
Ou pas, vous allez mourir, ou pas, j'accepte vos salutations.
Non, mais on sait jamais, machin. Et il répond ça vraiment littéralement. Et donc, les condamnés, ils vont se dire, ah, mais en fait, on est peut-être sauvés. Ça va peut-être bien se passer. Donc, ils veulent plus combattre. ils font exprès d'être maladroits. Ils se disent, bon, bah, en vrai...
ouais, si on se tue pas entre nous...
Si on se tue pas entre nous, ça a l'air bon. On va être forcé d'intervenir pour les contraindre à s'entretuer. Enfin, on va pas les tuer nous-mêmes, les forcer à s'entretuer. Bref, c'est pas une grande réussite, cette phrase.
Ok, ok, je vois.
Et elle est associée plutôt à un désastre. Donc, pas très étonnant qu'elle ait pas été beaucoup réutilisée derrière.
Waouh, ça n'a pas été documenté, quoi.
Oui, mais on a pas mal de documentation sur les empereurs et ce qui se passe. Apparemment, la popularité de cette phrase vient de Georges Bernard Shaw.
Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, lui ?
Bon, je sais pas, il a écrit un bouquin ou une pièce ou un truc sur le gladiateur.
Bon,
Et c'est lui qui a lancé ce truc-là. Donc, on dit pas la phrase et on commence à combattre. Il faut, donc encore une fois, se rappeler qu'on est dans un cirque.
Mmh.
Au sens propre comme au sens figuré. Donc, même si on est avec des vraies armes, qu'un coup, ça fait vraiment mal, il faut quand même donner un peu de trucs au public.
Mmh.
Il faut surtout pas être dans le truc un coup à mort, quoi.
Ouais.
Ça, c'est hyper mal vu. Aucun intérêt. Et donc, les gladiateurs sont entraînés à faire durer.
Ah, donc ils sont entraînés à se battre, mais pas vraiment... Enfin, si, à faire attention à ce que leur ennemi ne meure pas tout de suite, quoi.
Ouais, et puis en fait, à avoir au début des trucs qui sont plus des mouvements flashy pour faire en sorte d'intéresser le public. Et c'est aussi ça qui va se jouer dans un combat. C'est pas que une question de prendre le dessus sur l'adversaire, mais c'est aussi qu'in fine, c'est l'organisateur qui décide de ta vie.
Ouais, et en fonction du public aussi. Si...
C'est ça. Et en fonction du public. Et donc, est-ce que tu vas suffisamment plaire au public?
Pour qu'il veuille te sauver.
Pour qu'il veuille te sauver, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Il faut monter graduellement la sauce. Parce que même pour le gagnant, en fait, c'est un peu contre-productif
de buter un mec trop vite.
Ouais. Parce que t'as pas la victoire. En fait, on se dira que c'est une victoire sans panache.
Tu vois, et puis t'auras pas la foule qui t'acclame et donc la prime qui va avec, je suppose.
C'est ça. Donc certes, t'es un combat plus près de la fin de ton contrat, mais la gloire et l'argent, bah, t'en auras moins, quoi. C'est un truc qui est un peu étrange, mais t'as un mec en face de toi qui veut te tuer, mais d'un autre côté, vous travaillez aussi ensemble pour...
C'est un système hyper pervers d'oppression, enfin c'est...
Oui. Parce que, bon, on connaît un peu tous l'histoire des likes, hein. Enfin, des pouces bleus. Pour être précis, c'est l'organisateur qui choisit. Mm-hmm. C'est pas, on compte pas les pouces. C'est lui qui choisit en fonction de ce que veut, ce que crie le public et puis de ses finances, hein.
Ouais, bah oui.
Parfois, c'est l'empereur. Parce que si l'empereur a décidé de venir à tes jeux, bah, c'est lui qui décide.
Du coup,
c'est plutôt lui qui va avoir le dernier mot. La mort ou le pardon. Même s'il arrive qu'on dise dès le départ que le combat est ciné-missionné, c'est-à-dire sans pardon.
Ah, genre, il y a des combats où de toute façon, c'est la mort, quoi.
Oui.
Mais du coup, si la populace veut, enfin, le public veut sauver.
Ah, bah, il faudra qu'ils gueulent fort.
Ouais.
Et souvent, ils sont contents. Enfin, tu vois, c'est aussi un truc. On en reparlera, mais à un moment, tu viens voir des morts, hein, aussi.
Oui.
Tu dois te mettre le public dans ta poche. Tu dois combattre vaillamment, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu dois aller jusqu'au bout de l'épuisement, tout en restant sur tes pieds.
Mm-hmm.
Tu tombes, t'es une sous-merde, t'as perdu, tu mérites pas de vivre.
Ah ouais.
C'est l'histoire du soldat capturé vivant. Enfin, c'est.
Si tu tombes et que tu te relèves juste après.
Alors, dans ces cas-là, oui, mais si tu tombes et que t'as le mec qui est au-dessus de toi.
Ah oui.
Ben, en fait, là t'as vraiment perdu. Et c'est. Vaut mieux être complètement épuisé, machin, que de tomber, quoi.
Ouais.
Parce que, encore une fois, bah, c'est la société romaine. Il n'y a pas de survie pour les losers. C'est pas toujours déshonorant de reconnaître son infériorité et de demander grâce.
Mm-hmm.
Mais c'est toujours infamant de prouver son infériorité.
Oh là là, c'est tellement pervers comme façon de penser, c'est énorme.
Bon, parfois, le combat va pas aller jusqu'à son terme, parce que la foule le trouve tellement fabuleux qu'il gracie les deux combattants.
Et aussi, c'est hyper fatigant de se battre avec une armure, les armes et tout.
Bah, oui.
En fait, au bout de 5 minutes, les mecs, ils en peuvent plus, quoi.
Oui. C'est pour ça qu'il faut tout donner au début, quoi.
Mm-hmm.
Et parfois, bah, les deux mecs sont complètement épuisé et ils en peuvent plus, quoi.
Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, ils...
Donc là, bah, c'est la foule. Soit elle est hyper contente et les deux sont... Et match nul.
Mais ouais.
Et match nul, ça compte... Dans la carrière d'un gladiateur, ça compte comme une victoire. Un peu de choses près. Soit elle dit... ils sont vraiment nuls.
C'était tout pourri, c'était les deux, quoi.
C'est... Exactement. Et donc, cette foule, elle... ce qu'on voit, c'est que bah, plus le temps passe, plus elle vient voir des gens mourir. Sous la République, à chaque fois qu'on a des jeux, un gladiateur sur 10 meurt dans l'arène.
Ouais, ok.
Au 4e siècle, on est proche d'un gladiateur sur 2.
Oh.
Genre, il n'y a plus de pardon.
Ça se coûte hyper cher en mec. Enfin, c'est...
Ah oui, oui.
En même temps, au 4e siècle, c'est plus ou moins l'apogée de l'Empire. Il doit en avoir beaucoup, des prisonniers de guerre.
Oui. Si tu regardes les tombes, en fait, ce que tu vas voir, c'est que du coup, le nombre de combats et de victoires va plus ou moins en diminuant au fil des ans, parce que...
Oui, il y a plus de mecs à buter.
Non, c'est pas qu'il y a plus de mecs à buter, c'est que, en fait, au début, dans la République, tu peux perdre des combats.
Oui, puisque t'es pas sûr de mourir, ouais.
Puisque t'es pas sûr de mourir. Bah, au bout d'un... Quand t'arrives à un moment où le perdant meurt de toute façon, eh ben, la longévité est plus ou moins grande. Le recordman connu de combat, alors on parlera du vrai recordman après, mais le recordman gladiateur connu, c'est Flamma, qui a combattu 34 fois pour 21 victoires au 2e siècle. Il a refusé 4 fois sa liberté.
Ah ouais, le mec, il voulait y rester, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et il est mort dans l'arène ou...
Non, il est pas mort dans l'arène.
Il est mort dans son lit.
C'est ça. Du côté des empereurs, l'attitude, elle va aussi changer vraiment en fonction des personnalités. Il y a des gens qui adorent. Enfin, le public adore ça, hein, et Rome adore. Enfin, Rome, c'est un peu particulier aussi à certains moments. Il me semble qu'il y a un moment où les Romains, je crois que t'as un mec sur deux qui a pas de métier. Enfin,
en gros. Oui, ils foutent rien.
Ouais, ils foutent rien.
Bah oui, puisqu'on leur file du pain.
Ouais, non, mais c'est ça, on les nourrit, on les a, et donc, bah, les mecs, ils ont rien à faire, et donc,
Mais alors, ça, c'est les citoyens, quand même.
Oui.
Ouais. Mais... Parce que pour aller au cirque, tout le monde peut aller au cirque ou...
Tout le monde peut aller au cirque, mais les places sont chères. Ouais. Dans les deux sens. C'est-à-dire que elles sont chères en argent, mais c'est aussi compliqué de les avoir parce que bah, les amphithéâtres sont pas forcément, même si le Colisée c'est grand.
Oui, même si tu mets 100 000 personnes dans le Colisée, s'il y a 3 millions de personnes à Rome.
C'est ça. Le point de vue des empereurs va vraiment changer. Et en fait, cette relation avec le peuple de Rome, elle va un peu aussi être tributaire de cette appétence au jeu. Parce que c'est un moment où l'empereur est physiquement présent au milieu du peuple.
Ouais,
même
ouais,
s'il est
ouais.
dans une loge. Mais il est là, il est avec eux, quoi. Et certains disent que, en fait, si César, qui a été puissant, qui a conquis plein de trucs, mais qui a été assez vite oublié.
Jules César ?
Oui, par le peuple romain.
Mm.
Comparé à Octave. Enfin, tu vois, en fait, César meurt très vite Octave, et une fois qu'Octave est là, on parle plus de César, quoi.
Ouais. En même temps, Octave, il a régné 30 ans, quoi. Là où César, moins.
Ouais, mais t'as aussi des gens qui disent que ça vient aussi du fait que Octave, il kiffait les jeux du cirque.
Ah ouais.
Et qu'il était là, et que ça se voyait qu'il prenait du plaisir, qu'il était avec les gens. César, il faisait son courrier. Littéralement.
Ok.
Et il montrait qu'il s'en foutait, quoi. Et ça, avec dans ta relation avec le peuple, et donc comment le peuple te considère, ça joue aussi. On a parlé un peu du côté punk de Néron, qui fait des trucs, qui fait n'importe quoi avec les gladiateurs. Il était pas très fan, en fait, des gladiateurs.
Ah ouais.
Non, c'est pour ça qu'il aimait bien, tu vois, faire des trucs différents, faire de la poésie, forcer.
Ouais, ça, je savais qu'il voulait faire de la poésie, qu'il chantait et tout.
Forcer les sénateurs à se battre. Enfin.
Ok.
Mais il était pas très gladiateur. Non, le mec, l'empereur incontournable quand on parle de gladiateur, c'est...
Caligula ?
Non.
Ah, c'est celui de Gladiator.
C'est celui de Gladiator, Commode.
Ouais, Commode.
Commode. Alors, dans l'historiographie de Rome, c'est le mec à qui on attribue la fin de l'âge d'or de l'Empire.
C'est toujours cool.
Voilà. Même si on n'oubliera pas qu'il était, par exemple, plutôt tolérant sur les questions religieuses.
Alors, c'est quand Commode, déjà ?
Alors, Commode, je sais plus, c'est juste après Marc.
Ah oui, donc ils sont déjà... Ah, ils sont encore... Les chrétiens, c'est pas tout à fait ça,
ah non,
quoi.
C'est pas tout à fait ça. On attribue la fin de l'âge d'or de l'Empire romain à Commode, aussi, parce que Commode a décidé qu'officiellement, son règne devait être appelé âge d'or.
Voilà, donc après moi, ça peut plus être
voilà, c'est ça. Si tu veux briller en société...
Ce qui est un des buts de ce podcast, quand même.
Exactement. Si vous voulez, auditeur, briller en société, vous pourrez dire que dans la dynastie des Antonins, l'empereur qu'on surnomme l'Hercule romain est le seul empereur porphyrogénète.
Porphyrogénète.
Oui, qui est né dans le pourpre. C'est-à-dire que c'est le seul empereur fils d'empereur.
Ah ok, c'était pas de père en fils.
Bah en fait c'était souvent de père en fils adoptif.
Oui, ah oui, donc dynastie, faut le dire vite quoi.
Oui.
Au sens large de la dynastie.
C'est ça. Mais bah c'est au sens large jusqu'à ce que tu butes le dernier et que tu prennes un mec qui l'a pas choisi quoi.
Oui, ouais, ouais.
C'est un peu ça la dynastie romaine. Donc lui il est porphyrogénète, donc il est son père Marc Aurèle est empereur. Et quand on parlait de Flamma et de son record de 34 combats, Commode, lui, rentre dans l'arène 734 fois.
Ouais, en même temps, il doit se douter que on le sacrifiera jamais, quoi.
Bah, ouais, mais il rentre pour... Alors, on compte dans les 734 à la fois des combats contre des gladiateurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Sachant qu'il était... Enfin, comme c'est une star, il était bien payé pour ça.
Commode ?
Bah oui.
Mais il est empereur, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être bien payé ? Il possède l'Empire.
Bah ouais, mais sauf que du coup, l'Empire le paye lui, personnellement. Enfin bref, je pense qu'il y a un petit peu d'ego derrière tout ça.
Oui, ouais, c'est ça.
Et parfois, il va prendre des vrais risques. Hein.
Bah, quand il se bat contre un lion, effectivement.
Ouais, il va se battre parfois contre des groupes entiers de créatures monstrueuses. Alors, c'est hyper impressionnant tant que tu te rends pas compte que ces créatures monstrueuses qui arrivent à tuer par paquet, hein, c'est en fait les infirmes de Rome qui
sont déguisés.
Qui sont déguisés. Et que les pierres dont ils sont armés, en fait, c'est des éponges.
Ouais. Oui, donc 734 fois, un peu arrangé, quoi.
Voilà. Mais bon, qui vit par le glaive meurt par le glaive, comme on dit. Alors, c'est pas comme dans le film.
Ah, il n'est pas tué par Russell Crowe.
Il n'est pas tué par Russell Crowe. Mais en fait, sa maîtresse va découvrir qu'elle est sur une liste de gens à exécuter.
Ouais.
Et donc, c'est où ?
Ça sent,
ça
pas,
sent
bon.
Pas très bon. Et donc, elle va le droguer et c'est un gladiateur, son ami Narcisse, qui va finir le boulot. D'ailleurs, sur la tombe de Commode, il y a que deux épithètes qui caractérisent Commode. Et c'est pas, et on parle pas d'empereur, on parle pas de, c'est Commode, gladiateur et homosexuel.
C'est lui qui les a choisis, ces épithètes ?
Je crois pas. Mais, mais ça montre à quel point il était connu pour ça, quoi.
Ouais, ouais, d'accord. Mais Caligula, il était quand même un peu aussi sur les gladiateurs, non ? Caligula, ça veut pas dire sandales de gladiateur ?
Alors, Caligula, il aimait bien les gladiateurs, mais pas à ce point-là. C'est...
Ouais.
Il a organisé des combats, il a fait plein de jeux et tout ça, mais rien, en fait, rien de particulièrement marquant dans l'histoire.
Mmh. Oui, ou là, au Commode, ouais, c'est vrai que c'est un peu...
Bon, toutes les bonnes choses ont une fin.
Malheureusement.
Malheureusement, et encore une fois, souvent, la fête se termine quand les cathos s'en mêlent.
Ah, ils font chier.
Eux qui savent pas vraiment s'amuser.
Bah oui.
Faut dire qu'ils ont déjà pas de base un bon rapport avec les jeux du cirque.
Bah, il y en a pas mal qui se sont fait torturer, quoi, là-dedans.
Ouais, bah, souvent, ils ont été les stars, mais...
Alors qu'eux, ils n'ont pas choisi.
Voilà, eux, ils en gardent un souvenir mitigé, on va dire, des Jeux du Cirque. Tout s'accélère d'abord en 313, avec Constantin.
Celui qui
se convertit. Voilà, son édit de Milan, alors qui n'est ni un édit ni fait à Milan, hein, mais bon. Et c'est lui qui va mettre les choses en branle. En 325, il interdit la condamnation aux Jeux du Cirque.
Ouais.
Donc, ce qui rend le recrutement plus difficile.
Mm-hmm.
Bon, ça veut dire aussi que les condamnés, ils vont aux mines. Hein.
Oui, eux, ils y gagnent pas forcément.
Non.
Mais bon, on peut pas
eux,
tout faire.
C'est juste, eux, ils ont plus le choix, quoi. Puis, on va interdire aux soldats de s'engager dans la gladiature.
Ouais.
Et ces édits vont être perpétués par les empereurs. Et parfois, on va modifier ça un petit peu pour restreindre tout ça aux chrétiens. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être condamné au jeu du cirque.
Ah oui, mais un non-chrétien, par contre.
Un non-chrétien, il peut mourir.
C'est pas grave.
Et puis, avec cette arrivée du christianisme, les mentalités vont changer.
Mm-hmm.
Tu vois, on va être moins festif.
La bamboche, c'est fini.
Ouais, c'est ça. La dignitas, c'est plus trop à l'ordre du jour, quoi. On va aller plus vers la compassion. Enfin, tu vois, les trucs que Zemmour appellerait la féminisation de la société.
Ouais, c'est ça.
La compassion, le pardon.
Tendre l'autre joue.
Voilà. Donc, les jeux du cirque, ça devient de plus en plus décalé.
Ouais.
Tu vois, c'est bien la corrida, quoi. C'est bien la corrida quand t'as les écolos qui montent dans la société. Donc, ça va être de moins en moins populaire. Et arrive l'accident de trop en 404. Alors, en 404, c'est un moine du nom d'Almacus qui va décider de faire l'impensable pour un religieux, c'est-à-dire qui se rend à l'amphithéâtre Flavien, le Colisée.
C'est, ah oui, c'est oui, comme spectateur.
Comme spectateur. Pour voir de ses yeux, en fait, il y a plusieurs mecs, il y a des textes célèbres d'un chrétien qui se rend pour voir et puis il comprend pas et puis il voit les gens se battre, il voit le sang, ça le rend fou et il dit c'est vraiment trop cool, quoi.
Je l'ai traduit en cours de latin au collège, ça.
Ah ouais?
Ouais. Ouais, et je me souviens de lire ce truc et de faire, il est un peu con, lui.
et ben, lui, il va faire pareil et lui, ça le débecte.
Le moine, là?
Ouais. Les combats, ça le débecte. Son cœur qui est dédié à Jésus ne va pas supporter tant de violence et de mort. Et du coup, n'écoutant que sa charité, il va se jeter sur la piste et tenter de s'interposer entre les lutteurs.
Il a dû être populaire.
Voilà, le geste est beau.
Oui, certes.
Bon, ok, la foule va le pourrir, lui balancer tout ce qu'elle peut, il va limite être lapidé, et il va finir par se faire tuer par les gladiateurs qui étaient en train d'essayer de séparer. Mais l'essentiel est fait,
ouais.
Parce que ça fait scandale.
Ouais.
Le fait que le sang d'un chrétien se répande à nouveau sur le sable de l'arène.
Ouais, puis un religieux.
Un religieux, c'est la foi de trop. C'est le sang chrétien que le sable n'arrive plus à boire.
Erreur 404.
C'est ça. Le scandale éclate donc. Et l'empereur de l'époque, Honorius, alors qu'il n'est pas resté un des empereurs les plus connus. Hein. Ouais, en 404, on commence déjà.
Ouais, on est plus grand.
Voilà, je crois que c'est même l'empereur d'Occident. Hein.
Ah bah oui, il y a déjà un empereur d'Orient là qui est vachement plus puissant.
C'est ça. Et donc, devant le scandale, Honorius va interdire la gladiature et ça va être repris en 428. Et puis à partir de là, il n'y aura plus de combat.
C'est fini.
C'est fini.
Plus jamais.
Plus jamais. Enfin, alors en tout cas, plus sous la même forme.
Oui.
Peut-être dans d'autres cultures. Hein. Enfin, tu vois, chez les Incas, les Aztèques, les Olmèques, on avait ce genre de combat, des sacrifices et des choses comme ça. Mais
est-ce vraiment un mal? Que la gladiature se soit arrêtée. Est-ce que finalement le kayfabe et la WWE, c'est pas mieux?
C'est disons que t'as pas des gens qui meurent. Quoi.
Ouais, c'est
enfin, ça. Si t'as des gens qui meurent, mais
oui, mais c'est les accidents, drogue... c'est pas fait.
Ouais,
c'est pas fait pour quoi. C'est pas.
Mais voilà, donc c'est la gladiature, c'est à la fois proche, enfin à la fois il y a un côté mystique avec ce lien funéraire, un côté très électoraliste manipulateur, c'est très proche de la politique et des jeux de pouvoir, hein, et la personnalité des empereurs s'exprime aussi par les jeux qu'ils donnent. Et c'est aussi, enfin alors j'ai plus le nombre de gladiateurs, mais c'est enfin.
Ouais, c'est des dizaines de milliers de morts, quand
ouais,
même.
Oui, oui, oui.
Parce que ça dure donc depuis 200, moins 254, en tout cas, ouais. Là, jusqu'à 400 et quelques, ça fait 6 siècles.
Oui, on en a tué des gens.
Eh bien,
voilà.
C'est bien le wokisme, des fois aussi.
C'est
quand
ça.
On se sépare de ce genre de choses.
C'est ça, on dit du mal des catholiques.
Ouais, pour une fois.
Pour une fois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un truc, même avant, puisque quand on est en 264 avant Jésus-Christ, il n'y a pas trop de catholiques, mais ça a toujours même posé un problème aussi aux juifs. À cause de cette... Enfin, un juif n'est pas gladiateur.
Oui, puisqu'il ne doit pas tuer.
Puisqu'il ne doit pas tuer.
Mais bon, j'espère quand même que même chez les Romains, même en moins 200 et quelques, il y en a quelques-uns qui disent « Dis donc, c'est pas très sympa, ça, quand même. »
Alors, pas trop dans les voix qui comptent. Hein.
Oui.
Ouais. Et ils ont pas trop gagné, hein.
Ouais. Ouais. Bon. Et ben voilà. Si le Gladiator 2 va bientôt sortir, paraît-il.
Peut-être. Et ben, j'espère que ce sera commode contre les infirmes.
Mais il meurt pas dans le premier, si.
Je crois qu'il meurt, hein.
Ouais.
Je crois qu'il se fait tuer dans l'arène.
Ils meurent tous les deux, d'ailleurs.
Ouais, il me semble qu'il meurt.
Comment ils peuvent faire un deuxième film?
Bah, je sais pas, avec un autre Gladiator.
Je crois que c'est encore Russell Crowe.
Genre avec l'Undertaker ou... Ils vont peut-être faire un match du cercueil.
C'est pas drôle. Bien, donc, pour notre retour aux affaires, je vais parler de l'invincible Armana de la Baltique, titre un peu ironique que j'ai choisi moi-même.
D'accord.
Parce que donc, on a fait une longue pause, mais heureusement, il y a des choses...
Mais le monde a continué.
Le monde a continué, mais dans le monde, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé depuis notre dernier enregistrement. Par exemple, le blitzkrieg russe en Ukraine n'est toujours pas fini.
Non.
Et donc, les Ukrainiens se battent toujours pour repousser l'envahisseur russe.
Les orques. Enfin, on reparlera d'orques, mais...
Alors qu'une autre fois... Et pour ceux qui suivent ça un petit peu de loin, il semblerait que les nouvelles du front, enfin que ça avance pas beaucoup, quoi, cette
non,
histoire.
Non, c'est même pas de, enfin aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mi-novembre, je crois que ça va pas très bien.
Ouais, mais t'as pas, enfin il y a un moment où on parlait de grandes offensives et tout. Là, j'ai l'impression que c'est un peu stalemate.
Bah, on attend d'avoir fini avec le Hamas et Israël.
Oui, et puis après on verra.
Et après on verra.
Ceux qui suivent. Un petit peu plus, savent que pour l'armée russe, la situation n'est pas hyper brillante. Heureusement, ils ont beaucoup de soldats à sacrifier, mais bon, voilà. Mais que surtout, pour la marine russe...
Ouais, ça marche pas très bien.
Ça marche pas hyper, hyper bien. Notamment, la flotte de la mer Noire arrête pas de perdre des bâtiments.
Même avant qu'il soit fini.
Même avant qu'il soit, alors soit en construction, soit même le fleuron ouais. de la flotte de la mer Noire, etc. Sachant quand même, ce qui est assez remarquable quand on sait que l'Ukraine n'a pas de marine de guerre. Ils n'ont même pas de bateau de guerre.
Ils ont des drones.
Ils ont des drones et des plongeurs avec des mines.
C'est le Rainbow Warrior.
C'est un peu ça, ouais. D'aucuns en concluraient donc que les Russes ne sont pas très bons à la bataille navale.
On pourrait le penser.
Voilà, d'aucuns n'auraient pas complètement tort.
Bah, il n'y a pas beaucoup de mer hein, en Russie, finalement, vu la taille du truc.
Ils sont quand même, ils ont un accès sur la mer Noire, la mer Baltique et l'océan Pacifique, quand même, de l'autre côté. Et l'histoire nous apprend que donc d'aucuns a peut-être un petit peu raison. Notre histoire...
Sauf en sous-marin.
Alors, en sous... ils sont pauvres, des sous-marins. Bref. L'époque dont on va parler, le sous-marin, ça reste un peu un prototype. Hein, il n'y en a quand même pas beaucoup, puisqu'on va parler de la guerre russo-japonaise de 1905.
D'accord.
Enfin, 1904-1905. Puisque notre histoire commence en octobre 1904. La guerre a commencé il y a 8 mois contre l'Empire japonais. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a diverses raisons à cette guerre. Mais pour les Russes, ce qui est important, c'est de sécuriser Port Arthur, qui est un port en Mandchourie, qui leur permettrait d'avoir un port accessible toute l'année.
Oui.
Parce que Vladivostok...
Vladivostok, c'est relou.
Ouais, en hiver, c'est relou.
En hiver, le port, il a 200 km au bout de la banquise.
C'est un peu chiant. Et en août 1904, les Japonais commencent le siège de Port Arthur et l'armée de terre russe peine à desserrer les taux. La flotte du Pacifique se prend une branlée.
Pas étonnant, enfin, je sais pas si c'est étonnant ou pas.
Et alors, ils s'y attendaient pas. Ils pensaient pas que les Japonais avaient des bâtiments de guerre aussi modernes que les leurs, en fait. Et donc, bon, ils se prennent une branlée. Et.
Comme quoi, le racisme.
Ouais. Non, mais là, il y a beaucoup. Dans cette guerre, il y a quand même beaucoup de les Russes, c'est bon, c'est des jaunes, on va les niquer. Et de, bah non.
Non, ça ne marche pas comme ça.
En fait, non. Et donc, l'état-major russe se dit que, parce qu'ils ont aussi beaucoup de galères pour emmener des soldats de terre depuis l'ouest de la Russie, là où il y a les gens, jusqu'à l'est, là où on se bat.
Là où il y a la guerre.
Là où il y a la guerre. Et donc, l'état-major se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va réessayer de passer par la mer. Et donc, elle décide d'envoyer son principal atout, la flotte de la mer Baltique, l'armada de la Baltique.
Ok.
Puisque donc, comme la mer Baltique et la mer Noire, par exemple, c'est un peu loin.
C'est ça.
L'un de l'autre, t'as vraiment la flotte de la mer Noire qui reste en mer Noire, la flotte de la mer Baltique qui reste en mer Baltique et la flotte du Pacifique qui reste en Pacifique.
Ouais, mais le Baltique, c'est aussi un peu loin du Pacifique?
Tout à fait. Alors, le voyage... donc, ils vont s'y préparer plusieurs mois parce que le voyage fait 22 000 km.
D'accord, ils font le tour.
Bah, ils n'ont pas trop le choix.
Ouais,
faut pas mettre les bateaux sur les trains. Hein.
Ils font pas ça un moment pendant l'ère communiste?
Peut-être, mais à l'époque...
Ils construisent pas, genre ils tuent pas des milliers de gens à essayer de construire des canaux qui permettent de faire la jonction entre la Baltique et le Pacifique.
Peut-être, ouais. Mais là, ils viennent juste de finir le Transsibérien et ils ont déjà du mal à trimballer des mecs sur le Transsibérien, donc des bateaux, non. Donc, plusieurs mois de préparation.
Sinon, ils pourraient le faire en voiture.
Oui, on l'a vu. Mais non, là, en fait, pourquoi est-ce que c'est leur atout, l'armada de la Baltique? C'est parce que dans cette flotte, il y a 4 cuirassés de classe Borodino, qui sont les fleurons de la marine impériale russe, parce que c'est les plus gros cuirassés de la marine. Ils sont flambant neufs.
C'est genre le Potemkin ?
Ouais, un peu. Alors, c'est pas la même génération, mais c'est un peu genre le gros cuirassé que quand il arrive, normalement, tout le monde a peur et chie dans son ben, et qui donc est censé être invincible contre les coques de noix japonaises. Voilà. Donc, on en a quatre.
Les jonques.
Oui. On en a quatre, des comme ça. Et donc, on se prépare à envoyer tout ce monde. Alors, c'est compliqué, hein, quand même, d'envoyer toute une flotte sur 22 000 km. Il faut des navires de soutien. En pratique, la flotte qui va partir va se composer de 45 navires, dont 23 navires de guerre, et donc 22 navires de soutien. Et ils partent, ils prennent la mer le 14 octobre 1904. Pour des raisons que j'ai pas complètement comprises, je vous avoue, les Russes sont persuadés que la mer du Nord est infestée de torpilleurs japonais.
C'est endémique de la région
Alors, de ce que j'ai compris quand même, la raison un peu, c'est que l'Angleterre fabrique des torpilleurs qui vendent aux Japonais.
Ah,
mais
et peut-être que les Anglais les ont un peu enflés. Enfin, il y a peut-être de la désinformation. Ou...
C'est possible. Quoique, parce que les Anglais et les Russes sont quand même...
Ils sont potes à ce moment-là.
Ouais. À ce moment-là, ils sont un peu potes. Bref, quand ils partent, donc, les Russes sont vachement sur leur garde parce qu'ils se disent on risque de se faire torpiller. Et le torpilleur, c'est un peu nouveau comme invention et c'est vraiment la hantise du cuirassé, quoi. C'est l'arme anti-cuirassé.
C'est le rétière face au Mirmillon.
Un peu, ouais. Mais les événements vont donner très vite raison au commandement russe, puisque à peine passé le Danemark, donc pour sortir de la Baltique, il faut passer à côté du Danemark, un bateau inconnu est repéré dans la nuit par les navires de l'arrière-garde.
Merde.
Qui, du coup, ouvre le feu immédiatement, hein, parce qu'on leur a dit, attention...
S'il y a un bateau, c'est des Japonais.
C'est que c'est forcément des Japonais.
99% des bateaux au large du Danemark, c'est des bateaux japonais.
C'est bien connu. Donc, ils ouvrent le feu immédiatement, mais le bateau inconnu s'en sort indemne, parce qu'il se trouve que les marins russes de la flotte de la Baltique, ils sortent à peine de l'école navale pour les officiers, et que les pas-officiers, il y a 6 mois, ils n'étaient pas marins.
Voilà, il y a 6 mois, ils faisaient de la vodka, ils faisaient des...
ils construisaient
le transsubérien, c'est ça, ils allaient poser des rails.
C'est ça. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner beaucoup au canon, et ils ratent le bateau inconnu. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le bateau inconnu, c'est un bateau de ravitaillement russe, qui les a rattrapés pour leur donner des ordres et du matos. Bon.
Ça va. C'était fait exprès.
C'était fait exprès, tout va bien, plus de peur que de mal. Bref, quelques jours plus tard, c'est au tour des navires de tête de repérer des bateaux qui refusent de s'identifier. L'amiral russe, qui est donc à la tête de la flotte, ne veut pas prendre de risques. Donc, encore une fois, on tire dans le tas et là, il bombarde pendant 20 minutes.
Ah oui.
Histoire d'être sûr de les toucher quand même, un petit peu. Ce faisant, ils vont toucher 2 de leurs propres navires. Que, le problème quand tu te mets en cercle pour tirer, c'est que tu finis par tirer sur les autres de l'autre côté.
D'accord, donc c'est le principe du peloton d'exécution circulaire.
Un petit peu. Et en fait, de bateaux inconnus qui devaient être des torpilleurs japonais, c'était des chalutiers anglais et danois.
Ah, merde.
Bilan, 2 morts côté russe, 3 côté anglais et un bel incident diplomatique, du coup. Parce que les anglais, ils sont là genre, oh
Vous voulez qu'on vous montre ce que c'est qu'une marine?
Ouais, déjà. Et quel est le fuck, quoi? Genre, nos pêcheurs, ils ont rien fait. Quelques semaines plus tard, bon, incident diplomatique qui se gère à peu près. Et il semblerait que l'Angleterre, à un moment donné, a dit, si c'est comme ça, nous, on se met du côté des Japonais, on rentre en guerre. Mais les Russes ont fait, non, c'est bon, on va vous payer. Combien ça coûte, un pêcheur? Très bien, allez, ok. On vous fait un chèque.
Là aussi, tu casses, tu payes.
Ouais, c'est ça. Donc, ils arrivent à passer. Quelques semaines plus tard, l'armada donc dépasse l'Espagne et une question se pose. Faut-il se passer par le canal de Suez, qui était prévu, hein, 22 000 km, c'est par le canal de Suez, ou faut-il contourner l'Afrique? La question se pose parce que l'amiral russe, il se dit que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de torpilleurs japonais dans la mer du Nord qu'il n'y en aura pas dans le canal de Suez.
Bah oui.
C'est plus près, en plus.
C'est ça. Et puis surtout, une fois que t'es dans le canal...
T'es un peu niqué s'il y a un torpilleur en face.
Ouais, ou un porte-conteneur qui s'est mis en travers.
Voilà. Alors, à l'époque, il n'est pas aussi large que ça, le canal. Et en fait, c'est ça qui va prendre la décision. C'est que les cuirassés de classe Borodino, là,
ils passent pas.
Donc, il faut faire le tour.
Ouais, au moins, ils s'en sont rendus compte avant.
Certes, c'est vrai. Problème, ça rajoute 20 000 bornes, quand même, au périple. Donc, Ce qu'il fait, l'amiral, c'est qu'il va diviser sa flotte en deux. Les vieux bateaux, qui de toute façon en plus sont plus lents et donc ralentissent toute la flotte, vont passer par le canal de Suez, parce que si on les perd en plus, c'est moins grave. Et puis les cuirassés flambant neufs et ce qui va bien
pour le ravitaillement
vont faire le tour. Donc 20 000 bornes de plus. Autre problème, depuis l'incident diplomatique avec les pêcheurs anglais, les Anglais, quand les Russes leur disent hey, « Eh, on peut mouiller dans vos ports pour se ravitailler en charbon et en bouffe ?»
Oh, ils... au bout de non.
Voilà. Ils disent « Bah non. » Alors les Français acceptent, eux, sauf que à partir, quand une fois que tu as passé le golfe de Guinée, des colonies françaises, il n'y en a plus trop, quoi. Donc il y a un moment donné où se pose le problème de comment est-ce qu'on se ravitaille en charbon. La solution est trouvée grâce à une compagnie commerciale allemande qui va ravitailler en pleine mer la flotte russe.
Pratique.
Pratique. Mais surtout, comme on se dit, enfin, les Allemands, ils sont sympas, mais ils font, attends, on fait pas le tour, nous, hein. Par contre, passez le cap de Bonne-Espérance, vous démerdez, les gars. Hein. Donc, ils chargent les bateaux au maximum de charbon. Ils en foutent partout.
Mais du coup, est-ce que, il pourrait pas y avoir des Japonais déguisés en Allemands?
Peut-être, mais écoute, ils ont pris le risque. Et à un moment donné, c'est ça où se retrouver le coup de la panne dans le golfe de Guinée quand t'es en cuirassé. Bof.
Ouais, de la Baltique.
Ouais, c'est pas cool. En plus, ouais, les mecs, à la base, ils partent d'une mer un peu froide, quoi. Donc, ouais, ils mettent du charbon partout. Donc, les soutes sont pleines, mais ils en mettent aussi sur le pont. Ils vont même jusqu'à en mettre dans les cabines des officiers et des matelots.
Sympa.
Ouais. Surtout que ça, quand t'as du respire du charbon toute la journée, et bah épidémie de maladies respiratoires. Mais ils finissent par arriver jusqu'à Madagascar, colonie française qui les laisse mouiller. Quand ils arrivent à Madagascar, ils se rejoignent plus ou moins en même temps, ceux qui sont passés par le canal de Suez et ceux qui ont fait le tour. Mais de là, ils reçoivent un message de l'état-major russe qui leur dit « Les gars, vous avez l'air d'être un peu en galère, on va vous envoyer la flotte de la mer du Noir. » Attendez-les. Donc, ils attendent à Madagascar. 2 mois de plus. Problème. Un marin coincé à Madagascar, bah, ça fait ce que fait un marin un peu partout.
Ça boit et ça a des dettes de jeu.
Ça boit, ça a des dettes de jeu. Et après...
Et des maladies vénériennes.
C'est ça. Après l'épidémie de maladies respiratoires vient une épidémie de maladies tropicales et de maladies vénériennes. Au bout de 2 mois d'attente, la flotte de la mer Noire n'est toujours pas en vue. Et donc, l'amiral dit « Fuck off, on se casse. » Il en a marre d'attendre.
Il parle bien anglais, ce...
Oui, bah, je sais moi qui m'a parlé mal le russe, mais voilà.
Oui, il dit « Fuck off » en russe. Quoi.
C'est ça. La route la plus sûre, ça aurait été de contourner l'Australie pour arriver au large du Japon. Problème, on n'est toujours pas sûr qu'on va pouvoir se ravitailler en charbon. Du
ouais,
coup,
puis là, c'est faire le gros détour.
Ouais, bon, et plus à ça près, quoi. Mais effectivement, ils ne veulent pas faire le détour, donc ils passent par le détroit de Malacca. Ils font escale en Indochine française, et là, remessage de l'état-major, « Eh les gars, on vous a dit d'attendre la flotte de la mer du Nord, vous attendez la flotte de la mer du Nord. » Bon, ok. Sachant que la flotte de la mer du Nord, en fait, c'est 4 ou 5 cuirassés, c'est pas non plus...
Mais, oui, mais bon.
Mais bon, on les attend. Ok, on les attend.
Qui sont obligés de faire le tour par l'Afrique ?
Non, ils prennent le canal de Suez.
Okay.
Non, c'est pas les mêmes cuirassés. C'est des cuirassés plus anciens. C'est des cuirassés que, paraît-il, les marins russes surnomment les coules tout seuls. Donc, c'est une ancienne version qui marche moins bien.
Pas tout à fait abouti.
Pas tout à fait abouti, voilà. Donc, on repère un mois de plus à les attendre en Indochine. Et finalement, la flotte russe au grand complet atteint le détroit de Tsushima, entre le Japon et la Corée, fin mai 1905.
Là où il y a des fantômes.
Aussi. Mais là, en l'occurrence, il y a un des trois.
Mais c'est pas. D'ailleurs, le jeu de Ghost of Tsushima, c'est pas une histoire. Ah non, c'est des Mongols qui arrivent.
Je ne sais pas, je n'y ai pas joué.
J'y ai pas joué non plus, mais il me semble que c'est une histoire de. C'est peut-être plutôt des Mongols, d'envahisseurs qui arrivent.
Ah bah, c'est pas le moment des vents sacrés là qui sauvent tout le monde.
Peut-être. J'ai pas joué au jeu, donc.
Bon, en tout cas, le détroit de Tsushima, donc c'est entre le Japon et la Corée, c'est effectivement le bras de mer le plus court pour aller de l'un à l'autre. Donc, ils arrivent là fin mai 1905. Port Arthur est tombé depuis plusieurs mois. Mais bon, on est là, on n'a pas fait le voyage pour rien. Et puis, de toute façon...
Maintenant, on va casser des gueules.
Puis, non, il y a aussi que le port le plus proche pour aller se ravitailler, tout ça, c'est Vladivostok maintenant. Et puis, on est en mai. Donc
on est en mai, donc c'est bon.
Voilà. À nouveau, la flotte russe est en état d'alerte maximum parce que là, pour le coup, des torpilleurs japonais, a priori, il devrait y en avoir. Et ils essayent de passer en scred, en fait, le détroit. La nuit et tout, tout feu éteint, silence radio. Problème. Un des navires de soutien voient un navire identifié en face d'eux. Et là, ils se disent, merde, faut pas qu'on refasse le coup de la mer Baltique et ou de la mer du Nord et qu'on se remette à se tirer dessus. Du coup, ils envoient un message. Vous inquiétez pas, on est aussi un bâtiment russe, le reste de la flotte est là, nous tirez pas dessus. Bon.
Enfin, pour le coup, c'était un Danois.
Enfin, c'était un torpilleur japonais qui, du coup, va faire son rapport au Japon en disant « Eh, il y a la flotte russe qui est juste là. On pourrait peut-être les cueillir. » Et effectivement, le lendemain, la bataille s'engage entre la flotte de la mer Baltique et la flotte japonaise qui est hyper chaude. Parce que eux, donc, ils ont déjà... Ça fait un an et demi qu'ils se battent. Donc, ils sont bien entraînés, pour le coup. C'est pas des officiers qui sortent de l'école. Ils ont une centaine de navires, dont 4 cuirassés flambant neufs, plus ou moins de la même classe que les Borodino. Donc, commandés par des officiers expérimentés, ils sont chez eux, et ils ont... Surtout, les navires sortent des ports. Donc, ils sont propres. Donc, ils vont vite. Là où les navires qui ont fait 6 mois de pleine mer, ouais, ils sont blindés de coquillages et d'algues, donc ils vont pas vite. Un bateau, ça se carène. C'est ça que ça sert, un carénage. Côté russe, donc, on n'est pas hyper en forme. La bataille s'engage.
Et puis, ça fait un an que tu galères.
Oui. Et l'issue de cette bataille est assez évidente. Les Russes perdent 21 navires, dont les 4 cuirassés de classe machin invincible. 5000 morts.
Oui.
5000 blessés.
Ouf.
Côté japonais, 117 morts, 3 torpilleurs coulés. C'est tout. Voilà. Ils avaient raison de se méfier des torpilleurs.
Ça va. Preuve qu'ils ont bien fait, oui.
Mais, 3 mois plus tard, la paix est signée, l'Empire russe s'est fait humilier. Bon, ça c'est l'histoire, c'est autre chose. Mais en grande partie parce que, oh la vache, on s'est vraiment fait ridiculiser là.
Ah oui, oui.
Donc conclusion, peut-être qu'effectivement les Russes sont pas très forts à la bataille navale. Bon, bah voilà, en même temps, la Russie, c'est quand même surtout de la terre. Hein.
Oui, tu vois, quand t'es au milieu de la Sibérie...
Oui, et pas être bon en bateau, pas grave.
C'est pas une des compétences essentielles à ta survie, quoi.
Non.
Le cabotage.
Voilà. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. Mais
effectivement. Et du coup, on a appris plein de trucs.
On a appris énormément de choses.
Et si vous voulez continuer à apprendre des trucs, eh ben, vous pouvez suivre tous les autres podcasts du label Podcut. Vous pouvez venir nous parler sur le Discord du label. Vous pouvez nous laisser des avis, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, des pouces vers le haut pour sauver nos vies et nous accorder le pardon. Et nous, on se retrouve la prochaine fois.
À la prochaine fois.